Alors, l'argent, et puis S, qu'est-ce que c'est? Le sexe. Hmm? Oui. Les trois plures de bananes. Sous lesquelles on peut glisser. Parce que notre chair, elle ne s'améliore pas. Hein. Et si vous n'en êtes pas convaincu que dans ma chair, il n'y a rien de bon, ben, il faudra faire cette expérience. Et c'est douloureux. Le Seigneur ne voudrait pas. Ne voudrait pas que vous tombiez. Il est capable de vous garder sans tout broncher. Alors faites attention, ne sortez pas des versets de leur contexte. On dit, mais mettez-moi à l'épreuve, le Seigneur, j'emprunte à la banque. Puis je fais un grand don. Ça fait bien, hein. Je recevrai une lettre de remerciement. Je vais envoyer un don. Puis après. Je vous raconte pas des histoires. J'ai vécu ces choses, on m'a dit ces choses. J'ai vu des personnes pleurer parce qu'on les avait induites en erreur. Des conducteurs spirituels leur avaient dit, mais empruntez et donnez, et vous allez recevoir. Vous rendez-vous compte du châtiment qui nous attend si au lieu d'enseigner justement qu'il faut plutôt se restreindre et nous attendre au Seigneur et le remercier de ce qu'il nous donne. Alors, faites attention, ne dites pas, « Oh, le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve. » Alors, on va le mettre à l'épreuve, notre Dieu. Attention. Mais je sais que si je suis fidèle et que je peux donner de ce que j'ai, selon les enseignements de l'apôtre Paul, tu donnes d'après tes possibilités et, eh bien, tu verras que le Seigneur ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. J'ai été jeune, dit le psalmiste, et je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu le juste ayant faim, ni sa semence cherchant son pain. Ça, je le crois. Il ne nous donnera pas toujours du beurre sur les épinards, mais il nous donnera le nécessaire. La margarine, si tu veux. C'est peut-être meilleur pour la santé. C'est encore une preuve de son amour. L'apôtre Paul, c'était vraiment un homme heureux. Hein. Il dit, j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. Hein. J'ai appris, on l'apprend. Il dit, je sais être dans l'abondance. Il faut aussi savoir être dans l'abondance. Mais je sais être aussi dans la pauvreté. Et le Seigneur aime à nous donner aussi. Pourquoi? Pour qu'on nous puissions donner à notre tour. Parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors, ayons affaire avec le Seigneur. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, dans un temps pareil, vous voyez, et c'est ça notre temps. Maintenant, on termine par ça. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont parlé l'un à l'autre. Vous voyez, ce que je soulignais du témoignage de mon père, plus nous avancerons, plus le témoignage sera individuel. C'est pas avec beaucoup de personnes qu'on peut se parler maintenant, parce qu'on ne comprend pas. Les grands mouvements, même évangéliques, sont des mouvements qui sont lancés à toute allure sur d'autres voies. Eh bien, laissons-les, croyons que le Seigneur peut encore bénir au-dessus de tout, mais souvenez-vous de cela, parce que nous allons vers des temps difficiles, où peut-être nous ne pourrons plus jouir de toutes ces libertés que nous avons et dont nous abusons, parce que nous ajoutons à ce que le Seigneur voudrait. Parce que ce n'est pas toujours des choses que le Seigneur nous a demandé que nous faisons. Nous avons vu que quelque chose réussissait dans le monde, alors nous voulons introduire ça dans l'Église. Nous disons, ça réussit dans le monde aime ça. Eh bien, nous atteindrons le monde en allant au-devant de lui, en répondant à ce qu'il aime. Mais les besoins du monde, le monde ne les connaît pas. C'est en vous tenant devant Dieu que vous connaîtrez les vrais besoins du monde. C'est ce que le Seigneur nous apprend dans le chapitre 23 de Jérémie. Il dit, si mes prophètes, si ceux qui se disent prophètes s'étaient tenus devant moi, ils sauraient ce qu'ils ont à dire au monde. Mais non, on ne se tient pas devant Dieu, on regarde le monde. Puis on dit, ah, le monde aime tout ça. Bien, on va essayer de lui apporter cela. Puis avec ça, une petite sauce religieuse, hein, le nom de Jésus par-dessus. Alors on met Jésus à toutes les sauces pour atteindre les âmes, pour les sauver. Mais quel salut est-ce que vous apportez à ces âmes, mes amis? Quel est ce salut que vous apportez? Il est question du si grand salut de Dieu. Et le si grand salut de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu veux me suivre, renonce à toi. Or, nous, on veut pas, non? On veut que les gens restent ce qu'ils sont. Et on veut même les flatter pour qu'ils viennent à Jésus. On veut leur dire que Jésus a besoin d'eux. Hein? Le Seigneur a tellement besoin de vous. Je vous en supplie, convertissez-vous. C'est pas ça. Jésus n'a pas travaillé ainsi. Voyez-vous, nous avons besoin de nous laisser reformer. Nous avons besoin d'une relecture des Saintes Écritures, parce que nous avons perdu la notion de la sainteté. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui a été dit? L'Éternel fut attentif, et il écouta. Il y a des réponses. Nous n'avons pas une idole, nous avons un Dieu qui a des oreilles, et il écoute. Et non seulement il y a des oreilles, mais un livre de souvenirs fut écrit devant lui. C'est filmé. C'est écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Il nous faut redécouvrir ce qu'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est avoir peur de lui déplaire. Ceux qui craignent l'Éternel. Vous voyez, on a de bonnes pensées. Le cher David, il voulait faire une maison pour l'Éternel. Puis Dieu lui dit, mais est-ce que j'ai demandé ça, moi? Je n'ai jamais demandé une maison. Puis ce n'est pas toi qui la feras. Parce que toi, tu es un homme de sang. Donc Dieu n'a pas apprécié ce que David a fait dans la vie, quand il a versé tant de sang. Alors Dieu dit non, c'est pas toi qui feras ça. Ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom, il est dit ici qui honore son nom, Choura qui pense à son nom, et d'autres versions d'Arbi dit aussi qui pense à son nom. Parce qu'il y a des moments où on ne peut plus rien faire, mais on peut encore penser. On peut encore penser à son nom. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ils seront, ce petit témoignage, ces deux ou trois, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Darby a traduit, ils seront à moi, mon trésor particulier. Et c'est ça qui est merveilleux. Que vous soyez le trésor du Seigneur. Ils seront à moi, dit l'Éternel, mon trésor particulier. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Eh bien, pour moi, je vois dans ces derniers versets ce qui reste la grande espérance des croyants à la fin des temps. Qu'est-ce que nous attendons? La colère qui vient? Nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La colère à venir vient sur le monde, mais nous n'attendons pas la colère. Nous attendons Jésus qui va enlever les siens. De sorte qu'on verra la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. On frappera en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et il dira « Je ne vous ai jamais connu. » Mais Seigneur, n'as-tu pas enseigné dans nos rues? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas mangé et bu en ta présence? On aura pris la Sainte Cène et Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu. » Donc c'était toute une religion, c'était tous des gens religieux, mais que Jésus ne connaissait pas. Ils n'étaient pas en relation réelle avec lui. Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur salut. C'est des gens qui ont fait leur volonté, qui ont voulu servir le Seigneur, mais qui n'ont pas laissé le Seigneur se servir d'eux. Parce que c'est toujours moi, ma gloire, qui est mise en avant. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'être de ceux qui croient encore en ses promesses. Nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera, et les morts en Christ seront ressuscités, et nous les vivants qui demeurons, nous serons transmué, enlevé sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors viendra l'Antichrist. Toutes les questions prophétiques auront leur dénouement. Et quand le Seigneur reviendra alors en gloire, il reviendra dans sa totalité, tête et corps réunis. Le Christ total, c'est la tête et son Église. L'Église qui est son corps. Alors, la question pour nous, est-ce que nous sommes membres du corps de Christ? Quand le Christ reviendra en gloire, il sera admiré dans les siens et glorifié en tous ceux qui auront cru. Pour la première fois, eh bien, on verra l'unité de l'Église complète. Tous les rachetés du Seigneur seront en lui et il reviendra pour apporter la justice et la paix. Ce sera ce que nous verrons demain, le soleil de justice qui amènera la guérison sur ses ailes. C'est le chapitre 4 que nous laissons pour demain. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Vous avez des mauvaises pensées, vous avez pu croire que je voulais élever la chair en remontant sur ce podium, mais ce n'est pas ça. C'est simplement parce que je désirais encore vous voir, puisque je vous vois moins bien comme ça que quand vous êtes, comme nous nous réunissions les autres moments. Mais puisque notre culte doit déboucher sur le repas du Seigneur, eh bien je pense que tout à l'heure nous reprendrons notre place avec vous. Mais pour l'instant, dans cette matinée du 17 novembre 1985, nous terminons notre étude du livre de Malachie que nous avons intitulé « Tête à tête avec le Tout-Puissant ». Et nous vous avons dit qu'en cette fin d'année, c'était comme un bilan personnel aussi que nous désirons faire dans chacune de nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez pu, je pense, dans vos chambres, faire la lecture des derniers versets qui doivent nous occuper, mais je relirai depuis le verset 16 du chapitre 3e. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent ou qui pensent à son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez
et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, c'est la montagne du Sinaï, pour Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Seigneur, pour cette dernière portion de ta parole, nous voulons te demander une fois de plus ton aide toute puissante, cette aide que tu nous as promis par la puissance de ton esprit. Et très humblement, comme le psalmiste, nous aimons à te redire, ouvre nos yeux, pour que nous puissions voir les merveilles de ta loi. Que l'entrée de tes paroles nous illumine, et qu'elle nous donne l'intelligence dont nous avons besoin. Nous voulons être des simples et qui écoutent et qui croient. Que ta grâce nous soit donnée pour la gloire seule de ton nom, ô Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, vous vous rendez compte que c'est toujours dans une deuxième lecture que nous comprenons peut-être mieux le sens des paroles qui nous ont occupés. Et hier soir, évidemment, c'était la fin d'une longue journée et peut-être que nous n'avons pas pu nous arrêter comme nous l'aurions aimé sur ces versets 16 et suivants. Il concerne un temps où le témoignage, disions-nous, deviendrait de plus en plus individuel. Ce temps a été vécu déjà dans le passé, au jour de la grande attente messianique, peu de temps avant que Jésus naisse à Bethléem, après avoir été conçu à Nazareth. Il y avait là un peuple pieux qui attendait la consolation d'Israël. Mais ce n'était pas dans les grands cercles de Jérusalem que l'on en parlait, puisque quand les mages d'Orient, eux qui avaient été divinement avertis de la venue du roi des Juifs, quand ils sont arrivés à Jérusalem, leur question a provoqué un grand trouble dans la ville. Et pourtant, que disaient-ils? Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile en Orient. Donc, on ne parlait pas de cette venue dans les grands cercles, même religieux. C'était le petit peuple qui attendait cette consolation d'Israël, des hommes pieux, comme le vieillard Siméon, comme la veuve Anne, comme le couple Zacharie et Élisabeth, et d'autres encore. Oui, il y a déjà eu de ces moments où l'on se parlait l'un à l'autre, de l'espérance qui se trouvait dans les cœurs. Et l'Éternel était attentif, et l'Éternel avait écouté Et c'est quelque chose que nous devrions avoir toujours dans la pensée, que l'Éternel écoute nos conversations, sont télévisantes. Est-ce que vous pensez que nos conversations peuvent vraiment être enregistrées dans le ciel, dans le livre du souvenir du Seigneur? Il y a eu des conversations d'autrefois qui ont été enregistrées dans le ciel et que nous aurons le bonheur d'entendre un jour, car l'Éternel a été attentif. Ce Siméon qui attendait la venue du Seigneur, à un moment donné, eh bien, il a été averti divinement parce qu'il avait un besoin. Est-ce qu'il y a des besoins dans votre cœur? Est-ce que vous désirez, est-ce que vous recherchez le Seigneur? Eh bien, le Seigneur peut vous avertir s'il y a un besoin en vous. Et il est venu exactement à l'heure où il devait rencontrer le Seigneur lorsque Marie l'a présenté dans le temple. Marie n'avait pas envoyé un message à Siméon. Siméon est venu poussé par le Saint-Esprit. Marie n'avait pas envoyé un message aux mages de l'Orient, pas plus qu'aux bergers de Bethléem, mais ils sont tous venus par la puissance de l'Esprit et qui devait les rassembler autour de cette personne qui se présentait au monde comme un petit enfant. Et c'était pourtant le grand roi dont nous avons eu la vision dans ce premier chapitre de Malachie. Et ce qui nous rassure aussi, c'est qu'aujourd'hui, comment parler de notre espérance? On se moque de nous quand on parle de l'espérance qui nous habite. Et surtout quand on précise que cette espérance, c'est que nous avons déjà Jésus dans notre cœur, c'est l'espérance de la gloire. Mais la gloire pour nous, eh bien, ce sera sa venue, ce sera sa seconde venue, son arrivée. Mais ce que nous apprenons dans les autres textes de l'Écriture qu'il faut rassembler sans qu'ils se contredisent, bien, nous apprenons qu'il y a un grand événement que nous pouvons trouver ici mentionné si nous méditons la parole. Pour ceux qui craignent l'Éternel maintenant et qui honorent son nom, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le monde aujourd'hui ne nous connaît pas. Le monde nous ignore, comme il a ignoré le Seigneur. Mais le Seigneur nous reconnaît pour les siens. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel aujourd'hui et qui honorent son nom, même s'ils ont à souffrir du monde, parce que le monde ne nous connaît pas, parce que le monde a haï sans cause le Seigneur, alors nous ne pouvons pas nous attendre à être mieux traités, ils nous haïront aussi, nous ne sommes pas au-dessus de notre maître, mais un jour viendra où le monde reconnaîtra que Dieu nous avait aimés. C'est ce que vous avez dans l'église de Philadelphie. Je ferai venir tes ennemis à tes pieds et même les ennemis religieux et ils reconnaîtront que moi je t'ai aimé. Pour quelle raison? Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Parce que tu as cru que je reviendrai alors que même le monde religieux n'y croit pas. Ou alors renvoie la venue du Seigneur au calendrier grec. Eh bien, nous y croyons que la venue du Seigneur est proche. Et à cause de cela, nous sentons que nous avons peu de temps pour honorer son nom. Mais nous appartenons au Seigneur. Et un jour, le monde saura que nous étions à lui. Comment est-ce qu'il le saura? Parce que nous ne serons plus là. Comprenez-le bien. Le monde s'apercevra tout à coup qu'on était au Seigneur. Et non pas des futurs habitants d'une certaine planète où les grands de ce monde voudraient se rendre. Il y aura une disparition des croyants. Et alors, à ce moment-là, oui, on se dira bien, oui, ils y croyaient, et ça a dû arriver. Parce qu'on vous donnera toute espèce d'explication au sujet de la disparition soudaine d'une partie de la population du monde. Mais immédiatement, on dira, bien voilà, il y a des places pour d'autres personnes maintenant. Tous ces postes que ces gens avaient occupés seront libres, de sorte que ça va rendre, au fond, un certain service au monde, l'enlèvement des croyants. Il y aura moins de chômage, oui, et puis aussi, hélas, il y aura des banques qui pourront être renflouées par les capitaux des chrétiens, parce qu'ils ne prendront pas leurs capitaux dans le ciel. Et c'est peut-être très humiliant de penser à la perte qu'ils auront là-haut, hein, parce qu'ils auront manifesté que, oui, tout en étant sauvés, ils n'ont pas été riches pour Dieu. Les richesses, ils les ont laissées pour financer l'œuvre de l'Antichrist. Parce qu'il aura besoin d'argent, l'Antichrist, celui qui viendra après. Et c'est pourquoi le Seigneur voudrait peut-être nous ramener à vivre au jour le jour, et dans une plus grande dépendance de lui. Car les richesses de ce monde sont pourries. Ils seront à moi, dit l'Éternel, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Vous voyez, il y a un jour que Dieu prépare, puis le monde ne le sait pas. Mais nous n'allons pas dire le jour, nous n'allons pas dire l'heure, nous ne sommes pas insensés, puisque Jésus a dit, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mais nous l'attendons. Et nous savons que ce jour, il le prépare, puisqu'il est allé nous préparer une place. Et que cette place, nous l'occuperons un jour. Il est allé nous préparer une place dans les cieux des cieux. Les hommes n'arrivent qu'à évoluer dans l'espace, mais ils n'arrivent pas à connaître cette attraction céleste. Ils arrivent à se délivrer de l'attraction terrestre, mais quand ils sont délivrés de l'attraction terrestre, ils flottent, non pas plus haut. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien plus haut. Mais pour aller plus haut, il faut l'attraction céleste. Et seule l'attraction céleste sera connue par ceux qui sont célestes. Il faudra pour cela que nous soyons transmués, parce qu'avec notre corps de chair et de sang, nous ne ferions que flotter. Il faut que notre corps des vivants, le corps des vivants soit transmué, transformé, en un instant, en un clin d'œil, pour pouvoir échapper non seulement à l'attraction terrestre, sans avoir besoin d'une fusée, mais pour pouvoir être aspiré par l'attraction céleste. C'est pourquoi nous devrions être déjà de ceux qui connaissent quelque chose des choses célestes. Si vous avez été ressuscité avec Christ, pensez aux choses qui sont en haut. Soyez préoccupés des choses qui sont en haut. Notre pays, c'est le ciel. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Et je crois qu'il y a une préparation même angélique dans la création. Les anges vont prendre leur position pour ce grand départ. Car nous pensons que à l'enlèvement de l'Église, les anges seront chargés d'un grand service pour cette opération céleste. L'enlèvement de ces multitudes. On dira que ce sont des extraterrestres qui sont venus. Ce sont les anges qui sont les serviteurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Et il y a une préparation. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu, deux fois, il est dit que c'est le jour que Dieu prépare. Le débarquement, il a été préparé dans la précédente guerre. Hein. On le préparait. Il y a aussi une préparation pour nous enlever. Et c'est quand même une espérance bien plus glorieuse que de se faire incinérer et de se faire mettre dans une petite boîte et de demander aux astronautes d'aller nous faire flotter nos cendres dans l'espace. Il paraît que la liste des candidats est déjà longue en Amérique, de tous ceux qui sont donc inscrit pour ne pas être enterré, mais pour être, une fois incinéré, d'être des flotteurs, là, des flottants. Quelle folie, les hommes! ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Que c'est beau. Il est vraiment un père. Et comme nous le disons souvent, un père qui a un cœur de mère. Hein? Comme quelqu'un que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. C'est là notre Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Où seront les justes? Ils auront été enlevés. Et les méchants, eh bien, leur part sera sur la terre. Et quelle sera cette part? Avec celui qui est appelé avec un grand M, le méchant. Puisqu'on n'a pas voulu du juste, qui était qui? Jésus. Ils accepteront le méchant. Et même les juifs en sont là. Jésus l'avait dit, quand moi je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais quand il en viendra un autre, et ça sera un juif, en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. C'est dans Jean qu'il est dit cela. Le peuple juif, comme le monde entier, est tout prêt à accepter le surhomme qui vient, qui doit être manifesté. Mais il y a pour nous cette bienheureuse espérance. Nous n'attendons pas ce jour de la colère, nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Donc il y a d'abord la délivrance, et cette délivrance, elle est décrite dans plusieurs passages de l'Écriture. Nous savons que là, il y aura la première résurrection qui concerne les morts en Christ, que nous retrouverons sur les nuées du ciel, et nous les vivants, la génération qui sera vivante au retour du Seigneur sera transmuée. Nous attendons Jésus du ciel comme quoi? Comme juge? Non. Philippiens chapitre 3 verset 20, comme sauveur. Mais vous dites, mais je l'ai déjà reçu comme sauveur. Oui, mais il a sauvé nos âmes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire? Sauver nos corps. Nous attendons du ciel Jésus comme sauveur qui transformera le corps de notre humiliation en la conformité de son corps de gloire selon l'opération de ce pouvoir, selon cette puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est cela notre espérance. Bienheureuse espérance. Nous attendons la bienheureuse espérance et il est ajouté et l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la bienheureuse espérance précède l'apparition. Il enlève les siens pour revenir ensuite avec les siens, car comme nous le disions hier soir, quand le Seigneur se manifestera au monde, il se manifestera comme il s'est manifesté à Saul de Tarse, je suis Jésus que tu persécutes. Tous les siens seront avec Jésus. Le corps de Christ. Paul, Saul de Tarse n'avait pas touché le corps de Jésus, il ne l'avait pas connu selon la chair. Mais il a appris dans cette vision du corps de Christ que, en touchant un chrétien, un croyant, qu'est-ce qu'il touchait? Le Christ lui-même. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Et le Jésus que nous attendons, que le monde va voir, nous attendons individuellement Jésus, mais le Jésus que le monde va voir, c'est le Jésus tête et corps, dans son unité glorieuse. Et alors, il y aura la conversion du monde. Oui. Jugement et conversion. Parce qu'on verra le Seigneur dans sa gloire, et il sera admiré à ce moment-là. Il faudrait lire le chapitre premier de la deuxième épître aux Thessaloniciens, dans tous ceux qui auront cru. Il sera vu en chacune de nos vies. On verra le Seigneur en nous, mais d'une façon parfaite. L'Église sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça vaut la peine d'être lavé par le sang précieux de l'agneau et d'être entièrement délivré de toute culpabilité, de tout sentiment de culpabilité. Nous n'aurons que de l'adoration. Nous n'aurons que de la louange. Ce sera vraiment le culte céleste. Et nous chanterons la gloire du Seigneur. Car voici le jour vient. Là, il faudrait avoir du temps, mais je pense que vous allez relire ces textes et que vous allez les méditer. Le jour vient, il y a un jour.
Mais ce jour, eh bien, il se répartit, c'est pas un jour de 24 heures, c'est une période, comme c'est souvent le cas quand il est parlé de jour. Mais il y a une époque, le jour vient, ardent comme une fournaise, ah oui, pour ceux qui resteront, hein, ce sera la grande tribulation pour les Juifs, hein, et pour le monde, après avoir acclamé l'Antichrist qui aura reçu la puissance du diable pour faire les miracles. Hein. C'est dont on a accusé Jésus, hein, on l'acceptera de cet homme de péché, de l'unique qui vient sur le monde. Quand Jésus faisait des miracles, qu'est-ce qu'on disait pour ne pas y croire? Qu'il était démoniaque, qu'il avait un démon, qu'il faisait ses miracles par la puissance du diable. Mais quand un homme de chair s'élèvera lui-même pour se présenter comme Dieu, on attribuera sa puissance à Dieu, on le divinisera, on attribuera sa puissance à lui-même, on ne se posera pas de questions, et pourtant cette puissance, elle viendra de qui? Du diable. Le diable donnera sa puissance à Satan, et comme on l'a, le diable donnera sa puissance à l'homme de péché, et ce que nous savons, c'est que le diable est le singe de qui? De Dieu, on l'a toujours dit, hein, il singe Dieu. Alors, comme Dieu faisait descendre le feu du ciel sur les holocaustes, qu'est-ce qu'il fera, l'Antichrist? Il arrivera à faire descendre le feu du ciel, alors les gens seront séduits, et ils le prendront pour un envoyé de Dieu, ou Dieu lui-même. Voilà ce qui vient. Et alors, il y aura une unité dans le monde, oui. Parce qu'il amènera un gouvernement mondial et tout est en préparation, le jour que Dieu prépare. Tout est en préparation pour l'enlèvement, mais tout est en préparation aussi dans ce monde pour l'établissement du règne du mal. Satan a peu de temps et dans la vision de l'Apocalypse, on le voit assis sur le bord de la mer et qui attend. Le grand dragon est là, qui attend le moment. Eh bien, ce jour vient ardent comme une fournaise, et tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, parce que ça ne durera pas longtemps ce règne. Car quand ils croiront être arrivés à leur but d'établir ce printemps radieux, glorieux dont parlait Mao Tse-Tung et compagnie, eh bien, quand ils croiront y être arrivés et qu'ils diront paix, paix et sûreté, parce qu'il y aura un temps de paix, de sécurité, de sûreté, avec l'informatique, avec tout ce que vous voudrez, tout cela sera bien mis au point, et on arrivera, mais sans Dieu. Hein. Et pour acheter et pour vendre, il faudra se soumettre, avoir la marque de la bête. Alors vous comprenez, d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile, mais qui auront été bouleversés peut-être par cette disparition, qui se poseront des questions et qui voudront avoir la Bible. C'est pourquoi il faut faire des réserves de Bible pour après notre départ aussi. Parce qu'on cherchera la Bible. Il y a des âmes qui n'ont pas entendu l'Évangile, mais il ne faut pas croire qu'elles seront perdues. Il ne faut pas croire qu'après nous le déluge, hein. Le Seigneur continuera encore son œuvre, mais par une autre équipe que la nôtre. C'est une équipe usée, on est fatigué, on l'a vu, hein. On est fatigué. Alors il faut une équipe fraîche, il faut de nouvelles troupes qui ne sont pas compromises dans les iniquités de la chrétienté, des hommes nouveaux. Et où est-ce que Dieu va trouver ces hommes nouveaux d'abord? En Israël. En Israël, dans ce peuple. Et nous sentons aussi toute cette préparation profonde. Et ces hommes, alors, n'auront pas peur de mourir. Ils n'auront pas peur de dire la vérité. Ils auront une connaissance des Écritures. La pluie de la dernière saison leur sera donnée. Il y aura une onction de l'Esprit. Et ils iront encore jusqu'aux extrémités du monde pour annoncer l'Évangile. Ne pensez pas, ben nous, c'est nous qui devons faire ça avant l'an 2000, hein. Eh bien, non, parce qu'alors vous allez dire, le Seigneur ne revient pas avant l'an 2000, en tout cas. Alors que nous l'attendons quand ? Aujourd'hui. Nous l'attendons aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, le déluge, on n'y croyait pas. Et Noé a prêché cela pendant longtemps, on n'y croyait pas. Et il est dit, et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Et Jésus nous a averti qu'il en serait au moment de sa venue comme au jour de Noé. Les gens ne se douteront de rien. On mangera, on boira, on donnera en mariage, la vie continuera, etc., etc. Et puis, le déluge vint, elle les fit tous périr. Mais Noé était déjà entré dans l'arche. Sodome, quand le feu est descendu, Lot était déjà dehors, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur, nous le croyons, veut délivrer les siens, et il montrera qu'il fait une différence entre le juste et le méchant. Il recueillera le juste dans ses greniers célestes, et les méchants seront liés en bottes pour être jetés au feu. Ça, c'est une autre parabole qu'il vaudrait la peine d'étudier, hein, sur les derniers événements qui précéderont la moisson. Quand le grain aura été pris dans les greniers célestes, la paille livrée sera liée en bottes. Alors, ce jour vient ardent comme une fournaise, et tous les hautains ou tous les méchants seront comme le chaume. Et voyez-vous, s'ils sont comme le chaume, qu'est-ce qui va les brûler? Leur propre œuvre. Il ne faut pas croire que Dieu désire brûler les gens. C'est pas cela, mais c'est notre œuvre qui nous consume, si on est comme du chaume. Vous voyez, dans Ésaïe chapitre 1er, il est dit: l'homme fort, verset 31, sera comme de l'étoupe, et son œuvre, comme quoi? Comme une étincelle. C'est fantastique ce verset. Hein? L'homme fort sera comme de l'étoupe, mais l'homme fort qui se croit fort, hein, et qui a résisté l'esprit fort, il n'y a pas de Dieu. Eh bien, cet homme qui a nié Dieu, qui n'a pas voulu se soumettre, qui n'a pas voulu recevoir Jésus, il sera comme de l'étoupe, et son œuvre, qu'est-ce que c'est son œuvre? C'est son incrédulité. Qu'est-ce que c'est l'œuvre qui sauve? C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez à celui qui m'a envoyé. Vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres, mais par l'œuvre de la foi. C'est en croyant que vous êtes sauvés. L'œuvre qui vous sauve, c'est celle de la foi, qui admet ce que Dieu dit. Mais l'œuvre qui perd, c'est quoi? C'est pas des péchés simplement, parce que nous en avons tous commis. Hein. Mais c'est l'incrédulité qui perd quelqu'un. Son œuvre, comme une étincelle, ils brûleront les deux ensemble. C'est l'œuvre qui mettra le feu à la personne. Il n'y aura personne pour éteindre. Alors, toujours dans Ésaïe chapitre 2, il est parlé de ce jour qui est préparé, où les petits comme les grands seront abattus. Je lis ça, verset 12, où il est dit, l'orgueilleux sera humilié, verset 11, l'homme au regard hautain sera abaissé, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre les cèdres du Liban, hautes élevées, contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours. On a bâti maintenant un tour, plus que des tours. Mais il y a aussi un jour contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, contre tout ce qui plaît à quoi? À la vue, hein. Maintenant, c'est ça qui compte. Ça vous plaît? Bon, alors c'est bien. Du moment que ça vous plaît, c'est quelque chose de bien. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Mais non, mais ça me plaît. Contre tout ce qui plaît à la vue, l'homme orgueilleux sera humilié, le hautain sera abaissé, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là.
toutes les idoles disparaîtront, on entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel. Et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera, pour effrayer la terre. Ce n'est pas les Russes qui m'effrayent, ni les Américains. Je sais qu'un jour, c'est l'Éternel qui effrayera la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, ils les jetteront à qui? Aux rats. Hein, ça vaut la peine. Et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Alors, si vous voulez, à la suite de ce chapitre, reprendre le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6e, eh bien, vous verrez que lors de la rupture des sceaux, on retrouve ces événements qui font partie de ce jour que le Seigneur prépare, quand le Seigneur viendra. Verset 12 du chapitre 6. Je regardai, et quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Bien sûr que c'est un langage symbolique. Le Seigneur se retira comme un livre qu'on roule, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remués de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez? Le grand jour de sa colère ou Jésus qui nous délivre de la colère qui vient? C'est là que vous voyez qu'il y a vraiment deux actes dans sa venue. Il y a la délivrance et puis il y a la colère qui vient. Ce jour qui les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom. Alors, justement, qui seront, alors, ces gens qui, après l'enlèvement des croyants, seront des gens qui craignent le nom du Seigneur, eh bien, ils seront encore des multitudes qui, après l'enlèvement de l'Église, auront la possibilité d'être sauvés. Je ne dis pas à ceux qui ont entendu l'Évangile et qui l'ont refusé, parce que sur eux, il est dit qu'une puissance d'erreur viendra. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront au mensonge, à cause de cette puissante erreur, et ils s'endurciront. Mais ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'entendre l'Évangile, c'est pour ça que c'est faux de dire « Le Seigneur ne peut pas revenir maintenant parce que l'Évangile n'a pas été encore annoncé à toutes les âmes ». Si vous dites cela, bien vous êtes stupide. Je m'excuse si moi je suis stupide avec vous. Parce que ça veut dire que le Seigneur ne reviendra jamais. Parce qu'il y aura toujours les naissances physiques, comprenez-vous, qui seront plus grandes que les nouvelles naissances encore. Alors dire qu'il faut d'abord que tout le monde soit converti ou soit évangélisé pour que le Seigneur puisse revenir, ça veut dire qu'on ne croit pas au retour personnel du Seigneur, mais qu'on croit que c'est par les efforts des hommes de bonne volonté que la terre prospérera. C'est absolument anti-scripturaire, anti-biblique. Et il faudra que ce soit des athées qui vous le disent. C'est quelque chose de terrible de penser qu'il y a des athées qui pensent bien cela, que le monde va vraiment vers la catastrophe. Et ils le disent. Mais les chrétiens, ils disent paix et sûreté. Voilà les faux prophètes.
mais vous aurez la paix, mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, c'est pas possible. Le jour de la vengeance, ne nous parlez pas d'un Dieu de vengeance. Mais vous vous moquez de Dieu. Pour qui prenez-vous Dieu? Pour une mauviette? Le jour de la vengeance, Dieu est Dieu. Dieu est un Dieu saint et nous devrions prosterner devant lui. Les hommes d'autrefois, ils se prosternaient devant leur Dieu. Ils changeaient de couleur quand ils étaient en face de Dieu. Mais nous, nous gardons notre crède. Nous nous croyons plus que Dieu. Et voilà pourquoi il faudra qu'il y ait un jour contre toutes ces hautes tours, contre tout notre orgueil. Mais vous qui craignez mon nom, il y aura des gens qui craignent son nom. Lesquels? Et par quel moyen est-ce que Dieu évangélisera encore la terre? Eh bien, là aussi, on voit qu'il y aura une action angélique. Je me souviens d'avoir prêché à Paris, oh, il y a 40 ans de cela, sur le chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 6. J'ai commencé 18 soirs de conférences au quartier latin avec ce passage. Je vis un autre ange, verset 6 du chapitre 14, qui volait au milieu du ciel, et il avait un évangile éternel pour l'annoncer à qui? Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, et qui disait d'une voix forte, qu'est-ce que c'était son message? Il était très simple, hein? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez les astres, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà. Hein? Ne limitez pas notre Dieu et ne pensez pas que Dieu puisse être injuste avec aucune âme. Il n'y aura aucune âme perdue parce que Dieu l'aura voulu. Il veut sauver tous les hommes. Seuls sont perdus ceux qui refusent, qui ferment leur cœur à sa grâce au temps où il fait grâce. Mais il y a un temps de grâce pour chaque âme. Et s'il y a des perdus, c'est qu'on aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, c'est qu'on aura outragé l'esprit de la grâce, c'est qu'on aura estimé profane le sang de l'Alliance par lequel nous étions sanctifiés. Parce que le sacrifice du Christ, il est mort non seulement pour mes péchés, dit l'apôtre Jean, mais pour ceux du monde entier. Il y avait salut pour tous. Alors maintenant, vous pouvez comprendre ce verset 2, pour vous qui craignez mon nom. Alors, se lèvera, il y a une espérance pour les Juifs qui auront passé par la tribulation, et pas seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui, parmi les nations, cette foule innombrable que Jean voit, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, eh bien, quelle sera leur espérance? Eh bien, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Car quand le Seigneur revient alors en gloire, il apparaît comme le soleil. Ce qui nous fait penser que Pierre, quand il appelle Jésus l'étoile du matin, eh bien, ce que nous croyons, c'est que Jésus est l'étoile et Jésus est le soleil. Il est toujours comparé au soleil. Sa première venue, c'était déjà le soleil. Hein. Zacharie, dans le Bénédictus, le dit, le soleil levant s'est manifesté. L'Orient d'en haut nous a visités. C'est le soleil levant. Mais le soleil s'est couché avant la fin du jour. On a rejeté Jésus. Les ténèbres sont venues à minuit, à midi, sur la terre, l'univers a voilé sa face devant le crime de Golgotha. Le soleil s'est couché. Le Seigneur a été rejeté. Mais ce soleil réapparaîtra pour le monde entier. Mais avant, maintenant nous sommes dans la nuit du rejet du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons le matin. Le matin vient, mais aussi la nuit. Et qu'est-ce qui paraît juste avant le lever du soleil? Qu'est-ce qu'on voit briller dans le ciel? L'étoile du matin.
avant que l'aube se lève. On voit briller l'étoile du matin. Mais qui est-ce qui voit l'étoile du matin? Seulement ceux qui veillent. Seulement ceux qui veillent. Est-ce que vous êtes de ceux qui veillent? Est-ce que vous êtes de ceux qui attendent le Seigneur? Car quand le Seigneur viendra pour enlever les siens, le monde ne verra pas. Le Seigneur vient sur les nuées du ciel. Il enlève à lui. Il vient à notre rencontre et il nous enlève à lui. C'est l'étoile du matin. Est-ce qu'elle est déjà levée dans ton cœur? Est-ce que c'est là ton espérance? L'étoile du matin. Pour nous, nous le croyons, c'est la venue du Seigneur pour enlever les siens. Il est d'abord l'étoile du matin. Il prend les siens parce qu'il est dit qu'il reviendra avec les siens. Alors, pour revenir avec les siens, il faut d'abord qu'il ait pris les siens. Si je crois la parole, et si je crois à son authenticité et à l'inhérence de l'écriture, eh bien, j'admets ces choses et elles font ma joie. Maintenant, vous pouvez penser autre chose. Vous avez le droit d'avoir une autre théologie. Vous pouvez l'avoir. Moi, je ne vous jugerai pas. Mais je sais que cette espérance bienheureuse a soutenu mon père en particulier, mes parents et bien d'autres, des multitudes que j'ai connues et qui ont eu une vie sainte, une vie droite, une vie de bénédiction, aussi bien dans leur famille qu'ailleurs, parce qu'on attendait le Seigneur. Et il n'y avait rien de plus sanctifiant dans ces familles que cette attente du Seigneur. On ne s'y ennuyait pas. Puis on chantait des cantiques, puis des cantiques qui voulaient dire quelque chose. Je me souviens d'un pasteur qui s'est mis à pleurer dans une conférence parce qu'il voyait mon père parler de ses vérités avec un visage tellement rayonnant qu'il était bouleversé. Puis il a dit, oui, moi j'avais une autre théologie, mais maintenant j'y crois. Parce qu'il a vu que c'était incarné. Bien sûr, mon père n'a pas été enlevé, mon père est mort. Mais ce qu'il disait, mais j'attends pas la mort, j'attends le Seigneur. Il disait, mais si tu dois mourir, si vous devez mourir, je n'ai besoin de personne pour mourir. Il est mort sans personne, mais son visage rayonnait. Peu importe si nous devons passer par la mort, mais ce n'est pas la mort qu'on a attendue, c'est le Seigneur. C'est quelqu'un. Ce n'est pas cette espèce de crâne aux yeux qui n'existe plus. Et avec ses deux os, c'est ça que vous attendez. Hein. Bien la sauce. Puis cette espèce de robe. Non, ce n'est pas ça. Nous attendons Jésus. Et ça nous délivre de la crainte de la mort. Et si nous devons mourir, nous nous endormons dans l'assurance de la résurrection. Et c'est ça qui change tout. Et qui fait que même si nous devons passer par le deuil, nous ne pleurons pas comme ceux qui sont sans espérance. Nous avons une espérance et nous pouvons la donner à nos enfants. Alors, après le lever de l'étoile du matin, pour ceux qui veillent, parce que il faudrait lire le chapitre 5 de la première aux Corinthiens, après avoir lu le chapitre 4 qui nous parle de l'enlèvement et qui nous montre alors ceux qui veillent. Mais maintenant, quand le Seigneur viendra, l'époque de son retour en gloire, elle nous est décrite, le temps moral, crise économique, crise mondiale, crise politique, crise morale, ce sera un temps comme ça. Bien, nous voyons déjà que tout cela se prépare. Et il n'y a pas de remède. Qui est-ce qui apportera le remède pour le monde? C'est l'apparition du Seigneur en gloire, qui mettra fin au règne de l'Antichrist, qui mettra fin à la bête et aux faux prophètes, qui les anéantira par le souffle de sa bouche, et qui délivrera Israël de tous ses ennemis aussi, et qui apportera le salut à toutes les nations, car il est la lumière des nations. Siméon l'a proclamé, tu es le salut de Dieu. Mes yeux ont vu ton salut. Une lumière pour toutes les nations et la gloire d'Israël. Dieu ne manquera rien. Le dessein éternel de Dieu s'accomplira comme il l'a établi. Puissions-nous entrer déjà dans la compréhension de ce dessein. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison du monde, elle ne viendra quand? Quand le Seigneur reviendra. parce que le monde ira de plus en plus vers le mal et à sa perte. Nous le voyons. Mais ce que nous pouvons dire, que ton règne vienne, oui, ça vaut la peine. Et quand le Seigneur viendra comme le soleil de justice, alors là, on pourrait faire toute une étude, mais l'heure est avancée et nous voulons arriver au culte, sur ce soleil de justice. Il est dit que ceux qui aiment le Seigneur, ils sont déjà comme le soleil. Juge, chapitre 5, verset 31. Ceux qui aiment le Seigneur, ils sont déjà comme le soleil quand il sort dans sa force. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous avez dit que vous l'aimeriez, hein? Je t'aimerai, ô Éternel, je t'aime. Bien, ceux qui t'aiment sont déjà comme le soleil, ils ont déjà quelque chose de cette guérison. L'âme est guérie. Dans ces meurtrissures, dit Ésaïe 53, nous avons la guérison. Vous en êtes sûr? Dans les meurtrissures du Christ, vous avez la guérison. Donc le soleil nous a déjà guéri. Ce soleil levant qui est venu une première fois nous a apporté la guérison de l'âme. En attendant et qu'il nous délivre de nos corps de chair. La guérison viendra sur ses ailes pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et évidemment, ce sera, vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants. Car quand le Seigneur viendra en gloire, il rassemblera toutes les nations devant lui et c'est ce jugement des nations que vous avez dans le chapitre 25 de Matthieu. Et il dira, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez vêtu. Et les gens diront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? C'est des gens qui n'avaient pas une grande connaissance du Seigneur, hein. Ils l'ont pas vu, mais ils ont eu la crainte de Dieu. Ils avaient entendu le message dont parle l'Apocalypse de l'ange qui disait, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Et ils avaient compris qu'il fallait aimer le prochain comme soi-même. Et comme il y avait des ordres gouvernementaux qui disaient que tous ceux qui n'avaient pas la marque de la bête ne pouvaient plus ni acheter ni vendre, il y aura des gens qui auront eu pitié de ces gens-là, hein, qui, par conviction, par foi au Seigneur Jésus, et qu'ils ont compris par les Écritures, ils se seront convertis, mais ils seront dans une situation telle qu'ils devraient mourir, mais il y a des gens, des nations, qui auront pitié d'eux. Et qui, comme on a eu pitié des Juifs, on s'est compromis pour les Juifs, se seront compromis pour ces gens-là. Mais ils ne savaient pas que c'était pour le Seigneur. Mais comme ils avaient la crainte de Dieu, ça sera attribué au Seigneur. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits Juifs qui sont mes frères, vous l'avez fait à moi. C'est ça leur salut. On ne sera pas tous jugés de la même manière. Ce jugement des nations, c'est quelque chose de merveilleux à étudier. Dieu est juste dans toutes ses voies. Et alors vous foulerez les méchants, qui seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et dans cette préparation, comme il l'est dit, souvenez-vous de Moïse, de la loi de Moïse. Si vous retournez dans l'Apocalypse, vous verrez qu'après l'enlèvement de l'Église, eh bien, Israël se souviendra de la loi de Moïse. Il y aura un réveil en Israël. Et un juif me disait un jour, quand j'essayais de témoigner auprès de lui, certains l'ont connu, il disait, tu sais Gaston, tu es en train de faire de moi un bon juif. Il m'avait dit, la première fois que je l'ai rencontré, moi, je suis fils du diable. Puis vous savez, il était beau, parce que le diable, il n'est pas laid, hein. Le diable a la figure que le monde aime. Eh bien, cet homme qui m'a dit « je suis fils du diable », certains qui sont venus avec nous en Israël se souviennent de lui, c'était Yedidia, qui veut dire « ami de Dieu », il m'avait dit « je suis fils du diable ». C'est lui qui voulait nous conduire. Alors, c'était pas facile d'être avec lui, hein, d'être avec un fils du diable pendant 21 jours. Eh bien, à la fin, il a quand même rendu témoignage. Il m'a dit « tu es en train de faire de moi un bon juif ». Et je crois que c'était comme ça qu'il faut commencer, hein. Qu'il soit d'abord un bon juif. Parce qu'évidemment, les chrétiens, il en avait marre. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, tous les chrétiens? Ils nous le rappelaient. Alors, Dieu est en train de préparer, et il retourne à la loi de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Alors nous, on nous dit aujourd'hui, votre morale, c'est la morale, comment est-ce qu'on l'appelle ? Judéo-chrétienne. Parce qu'on ne veut plus de cette loi de Moïse. Hein. Parce qu'on la transgresse de toute manière. Bien souvenez-vous de ces préceptes et de ces ordonnances. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'était le messager. Il était venu en la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste représentait Élie pour sa première venue, mais comme Jésus n'a pas été reçu, et que Jean-Baptiste a été décapité, Élie doit revenir. Si Jésus avait été reçu, il n'y aurait pas besoin qu'Élie vienne. C'est pour ça que Jésus dit, quand il descend de la montagne de la Transfiguration, que Jean-Baptiste est déjà venu. Il était venu pour sa première venue. Jean-Baptiste devait ramener le cœur des pères à leurs enfants et des enfants à leurs pères. Il y a eu un réveil avec Jean-Baptiste. Il a préparé le chemin du Seigneur, mais on l'a rejeté avant de rejeter le Seigneur lui-même. Alors, donc, l'établissement du règne n'a pas pu se faire parce qu'on a rejeté qui ? Le roi, n'est-ce pas ? Le roi a été rejeté. Pourquoi est-ce que le règne de Dieu n'a pas commencé après Jésus ? Parce que le roi a été rejeté, il a été crucifié. Et même, on peut voir dans la vision d'Étienne, il dit qu'il voit Jésus debout. Et c'était la dernière occasion pour les Juifs. Si les Juifs s'étaient convertis, le Seigneur aurait pu revenir à ce moment-là. C'est ce que Pierre prêchait, en tout cas, à Jérusalem. Si vous vous convertissez, si vous reconnaissez que vous vous êtes trompé en crucifiant le Seigneur de gloire, il viendra pour amener les temps de rafraîchissement, le règne. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est bouché les oreilles et puis on a lapidé Étienne. Alors depuis, vous ne voyez plus le Seigneur debout dans l'Écriture. Il est assis. Mais il se lèvera. Le jour viendra. Et cet Élie, ce témoin, vous les trouvez dans l'Apocalypse au chapitre 11, viendra après l'enlèvement de l'Église. Il y aura un témoignage tout à fait particulier. Élie doit venir avant le jour de l'Éternel arrive, car est ce jour grand et redoutable. Il ramènera les pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, ça finit par une menace, ce livre, tandis que l'Apocalypse finit par une bénédiction. Voilà, nous n'avons fait qu'effleurer ces vérités. J'espère que vous allez vous souvenir des questions des hommes. En quoi nous as-tu aimé ? En quoi avons-nous méprisé ton nom ? En quoi t'avons-nous profané ? Pourquoi ? Vous dites pourquoi ? En quoi l'avons-nous fatigué ? Où est le Dieu de la justice ? En quoi devons-nous revenir ? En quoi t'avons-nous trompé ? Qu'avons-nous dit contre toi ? Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Donc, là, il y a 10 questions que les hommes posent à Dieu dans ce Testament. Lui en pose 11. Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob ? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous offrez une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Dieu ne vous recevra-t-il pas favorablement ? Lequel de vous fermerait les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel ? Puis-je agréer les offrandes que vous m'avez faites ? Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Un homme trompe-t-il Dieu ? 11 questions que le Seigneur nous a posées. Et puis 3 questions que notre conscience nous pose. N'avons-nous pas un Père, un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance ? Voilà les questions du tête-à-tête que nous avons eu avec Dieu. Et maintenant, que pouvez-vous garder comme affirmation de Dieu dans ce livre où nous avons discerné qu'il était l'Éternel des armées, l'Éternel, le grand roi, le témoin, vous vous souvenez de tous ces noms. Mais quelles affirmations, je vous aime. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Moi, l'Éternel, je ne change pas. Mettez-moi à l'épreuve. Ils seront à moi. Mon trésor particulier est sur ceux qui craignent mon nom, le soleil de justice se lèvera. Eh bien, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et que nous puissions connaître déjà le Seigneur comme le soleil et le bouclier, comme le dit le psaume 84. Amen.